Lucie pour cette présentation et puis merci à toute l'équipe du séminaire Marx pour cette invitation. Merci à celles et ceux du fond de me dire si on m'entend bien ou de, si jamais de faire des gestes. Nous sommes très heureux d'être ici, même si mon co-éditeur, co-auteur n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Il est à Nice en ce moment où il habite, mais on a eu l'habitude, quand on était tous les deux thésards, de partager un bureau à Lausanne ensemble. Et c'est là que l'habitude d'écrire ensemble est née, d'abord sur un petit article et puis ici, sur un projet de traduction. Traduction pourquoi ? Parce qu'on était surpris qu'au moins l'article de Robert Brenner de 1976 ou 1976, comme apparemment on dit ici, n'ait jamais été traduit. Et donc on s'est dit, c'est quand même bizarre qu'un article aussi important dans l'historiographie anglo-saxonne du marxisme, sur les débats de la transition du féodalisme au capitalisme, n'ait pas été traduit. Et donc on s'est dit, allons-y. Et donc nous avons écrit à Robert Brenner. Pourquoi ? Parce que pour obtenir les droits de traduction, il faut demander les droits à l'éditeur, qui nous dit pas de souci, pour autant que l'auteur soit d'accord. Et patatras, Robert Brenner n'est pas d'accord. Alors, des fois, on se pose la question de savoir pourquoi certains auteurs ne sont pas traduits. Parfois, c'est parce qu'ils ne le souhaitent pas. En l'occurrence, il s'agissait plutôt d'un malentendu, c'est-à-dire que son article de 1976, c'est un article avec lequel il n'est pas satisfait. Il n'est pas satisfait parce qu'il a commis des erreurs, il avait des concepts qui n'étaient pas encore tout à fait bien formulés, et le débat qu'il a suscité, le Brenner Debate, lui a permis d'affiner ses concepts, d'en créer de nouveaux, et finalement d'arriver à une solution qui lui semblait satisfaisante, qu'il a publié dans un article de 1990. Ce qui a donné lieu encore à quelques autres réponses, et finalement, en 2007, il publie ce qu'il considère comme étant lui-même son point de vue définitif sur la question de la transition du féodalisme au capitalisme. Alors, c'est... et Robert Brenner nous dit « Je voudrais bien que vous traduisiez à la place l'article de 2007. L'article de 76 fait 25 pages, celui de 2007 en fait plus de 80. On était malheureusement contraints de partir sur une traduction qui nous paraissait plus longue que ce qu'on avait anticipé. » Et pour enrober ces 80 pages de traduction, ben on s'est permis d'écrire une petite introduction d'une centaine de pages pour présenter l'histoire de cet article, et pas seulement de l'article de 2007, mais aussi de celui de 76 et de l'évolution de la pensée de Brenner. Et ça, on l'a fait en trois temps. D'abord, en racontant l'histoire des débats sur la transition du féodalisme au capitalisme, dans un deuxième temps en racontant la contribution de Robert Brenner elle-même, et dans un troisième temps en parlant de la postérité de cette pensée. Alors, mon objectif aujourd'hui n'est pas de vous raconter tout le livre, ni de vous raconter tout ce que Brenner a dit dans cet article, mais plutôt de vous préparer, en sélectionnant quelques aspects de notre introduction, à sa lecture. Oui, peut-être vous dire aussi que Nicolas Brissa et moi-même sommes à la base des économistes, qui sommes devenus historiens de la pensée économique pour moi-même, historien de la pensée économique et philosophe économique pour Nicolas. Nicolas travaille en ce moment beaucoup sur la question de l'expertise économique en France sous Vichy. De mon côté, je travaille pas mal sur la question de la pensée économique impériale russe et soviétique. Et donc, on avait un intérêt commun à approcher ce qui n'est pas notre tasse de thé habituelle, puisque nous ne sommes pas des historiens médiévistes. On aurait préféré que des historiens médiévistes traduisent cet article. Vous dire encore, avant que je commence, qu'on ne vous présente pas seulement l'argument de Robert Brenner. On est séduit un peu par l'argument de Robert Brenner. Et donc, même s'il n'est pas parfait, même si on peut encore travailler, c'est une pensée vivante, il nous apparaît comme un contrepoint intéressant à d'autres explications qui nous paraissent avoir des apories plus ou moins évidentes. Et puis, vous rappelez que même si on travaille sur l'histoire médiévale, eh bien, on travaille à la compréhension des origines du capitalisme et donc la compréhension du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et donc, on participe, on espère, à ces transformations futures. Voilà. Le plan de ma présentation, c'est de vous ramener quand même chez Marx et Engels dans un premier temps et la question de la transition dans les textes des fondateurs. Je dis fondateurs puisque Robert Brenner se place dans une lignée explicitement marxiste. Moi qui ai beaucoup étudié la pensée économique soviétique, ça me paraît assez étrange de faire ça parce que c'est ainsi que commençaient tous les textes d'économie soviétique. On cite d'abord Marx, Engels, puis Lénine, parfois Staline, et ensuite on peut parler de ce qu'on a envie de parler. Dès la page 3 commence le cœur du débat. Je vais essayer de vous montrer que c'est peut-être un peu plus substantiel que cet exercice formel, mais ce sera à vous de juger. J'ai pas envie de vous imposer un avis sur la réussite de l'exercice. Dans un deuxième temps, je vous parlerai du débat entre Dobb et Sweezy, qui est l'ancêtre du Brenner Debate, et qui est important, puisque le Brenner Debate, c'est un débat essentiellement entre historiens, là où le débat entre Dobb et Sweezy est un débat essentiellement entre économistes. Et on navigue entre les deux domaines. Dans un troisième temps, j'évoquerai les débats soviétiques qui, jusqu'ici, n'ont jamais été mis en rapport avec les débats occidentaux sur la question de la transition. Dans un quatrième temps, je vous présenterai le contexte anglais de la contribution de Robert Brenner, qui est un économiste et historien américain, états-unien, pour être plus précis. L'Amérique, les Amériques, c'est grand. Dans un cinquième temps, j'évoquerai brièvement la critique des modèles appelés smithiens et malthusiens chez Robert Brenner. Et là, on aura les éléments pour qu'on entre dans un sixième temps, dans ce que je vais appeler les concepts clés de Brenner. Je vous les dévoile déjà, vous les connaissez peut-être. Le concept de relation sociale de propriété, qui joue un rôle important, et le concept de règles de reproduction. Et enfin, puisque le temps ne me le permettra pas, je ne ferai qu'esquisser quelques éléments du Brenner Debate lui-même, c'est-à-dire ce qui se passe des textes de Brenner après Brenner. On est parti, et on commence donc chez Marx et Engels. Mais pas vraiment, puisqu'en fait, les marxistes politiques, c'est le nom qu'on a donné au courant auquel les textes de Robert Brenner ont donné naissance, ont eux-mêmes fait ce travail d'exégèse chez Marx et Engels pour montrer que la confusion des débats entre les marxistes, c'est une confusion traditionnelle, puisqu'elle trouve ses traces dans les textes eux-mêmes de Marx et Engels, et qu'il est toujours possible de trouver chez Marx et Engels des textes qui vont dans le sens de notre orientation et d'autres qui vont dans un autre sens. Et en l'occurrence, Robert Brenner met en lumière deux modèles de développement chez Marx et Engels qui sont à la source de deux modèles de transition du féodalisme au capitalisme. Le premier modèle, qu'il nommera par la suite, mais pas immédiatement, le modèle smithien. C'est un modèle qu'on trouve, d'après Brenner et comme Ninel, un autre marxiste politique, dans l'idéologie allemande, dans des textes comme « Misère de la philosophie » en réponse à Proudhon, ou dans le manifeste du Parti communiste, eh bien, c'est le développement des forces productives qui sont le moteur de l'histoire. Et par là, on entend que pour que l'histoire bouge, eh bien, il faut un approfondissement de la division du travail, de sorte à accroître la productivité et la concurrence entre les producteurs fait que l'on va introduire des innovations qui vont être économes en travail, voire même laisser apparaître de nouvelles possibilités dans la division sociale puis technique du travail. Et donc, dans ce contexte de ce premier modèle, le féodalisme apparaît comme un frein au développement naturel des forces productives. Pourquoi ? Parce qu'il est bardé d'institutions qui, d'un point de vue rétrospectif, du point de vue du capitalisme, sont rétrogrades. Le servage, par exemple, empêche la mobilité du travail, puisque les serfs sont rattachés à leurs terres. Les corporations d'artisans, de leur côté, viennent freiner la productivité en empêchant, par exemple, l'adoption de progrès techniques. Là où le capitalisme ferait que le premier à introduire le progrès technique pourrait bénéficier d'un avantage concurrentiel sur les autres, ici, toute une corporation peut décider ensemble, c'est l'ancêtre des cartels, de ne pas introduire cette innovation parce qu'elle pourrait faire, elle pourrait réduire la valeur en termes de travail de ce qui est produit et donc produire des effets collectifs néfastes à cette corporation. Et donc dans cette lecture, il faut que quelque chose, un élément extérieur au système féodal, vienne briser ces institutions pour libérer le progrès des forces productives qui ne demandent que ça, à croître pour amener la croissance. Et pour les partisans de ce premier modèle, j'y reviendrai un peu plus tard, eh bien, c'est essentiellement le commerce qui va jouer ce rôle, et surtout le commerce au long cours, avec les bateaux, avec les, le développement de colonies qui viennent apporter un capital marchand qui pourra ensuite être investi dans l'industrie et qui va provoquer des bouleversements dans le monde féodal en commençant par le développement de la bourgeoisie et des villes. Et donc le féodalisme ne résiste pas à ces développements. La croissance smithienne peut s'enclencher, division du travail, progrès technique, réduction des coûts sous l'effet de la concurrence, accumulation du capital. On a là une histoire d'un développement quantitatif des forces productives qui est premier, là où les marxistes politiques vont leur opposer un développement qualitatif des rapports de propriété. Et donc, dans ce deuxième modèle qu'on trouve dans les Grundrisse ou le Capital, et que Helen Meixinswood, une marxiste politique très importante, va qualifier de modèle nettement marxiste. Le premier était marxiste-smithien, le deuxième est nettement marxiste. Eh bien, la source de la sortie du féodalisme ne va pas venir de l'extérieur avec les bateaux, mais va venir de l'intérieur du système féodal, de lui-même. Puisque, et c'est là où on a un peu un serpent qui se mord la queue dans le premier modèle. Dans le premier modèle, on a une épargne qui mène à l'accumulation de capital nécessaire à l'apparition du capitalisme, c'est la prétendue accumulation primitive, eh bien celle-ci présuppose déjà l'existence de comportements capitalistes. On épargne déjà en vue d'accumuler. Or, pour Brenner, c'est précisément cela qu'il faut expliquer. Comment apparaissent ces comportements capitalistes et pas faire l'hypothèse qu'ils existent pour expliquer l'apparition du capitalisme. Je vous donne peut-être une première citation, la seule citation de Marx de cet exposé, de sorte à ce que je remplisse mon exercice initial. C'est Marx dans Le Capital, aux éditions sociales 2016, page 691. Cette accumulation initiale joue dans l'économie politique à peu près le même rôle que le péché originel en théologie. Adam a mordu la pomme et le péché s'est abattu sur le genre humain. On en explique l'origine en la racontant comme une anecdote du temps passé. Il était une fois, il y a bien longtemps de cela, une élite laborieuse d'un côté, intelligente et avant tout économe, et de l'autre, une bande de canailles fainéantes qui gaspillaient sans compter les biens de cette élite. Or, il advint ainsi que les uns accumulèrent de la richesse et que les autres n'eurent en définitive rien d'autre à vendre que leur peau. Et c'est de ce péché originel que date la pauvreté de la grande masse qui, en dépit de tout son travail, n'a toujours rien d'autre à vendre qu'elle-même et la richesse de quelques-uns qui croient continuellement, bien qu'ils aient depuis longtemps cessé de travailler. On a donc là un passage ironique dont Marx est friand, sur des passages qu'il aurait lui-même écrits dans le passé et qu'on vous met dans notre texte comme illustration. Ce qu'il faut donc expliquer, et je vais me répéter plusieurs fois là-dessus, parce que c'est ce que les lecteurs de Brenner ont parfois, ou en tout cas ses opposants, de la peine à comprendre, c'est comment émergent des rapports sociaux capitalistes sans être présents dans le féodalisme, tout en émergeant du féodalisme lui-même. Et ça, c'est quelque chose de pas nécessairement simple à expliquer. Il aura fallu quelques décennies à Brenner pour arriver à un discours qu'il estime lui-même cohérent et qui n'est que le point de départ de recherche dans cette direction. Ça passe évidemment, mais ça vous le savez déjà, par la transformation du travail en marchandise et son exploitation, c'est la survaleur qu'on de façon très bien aboutie dans le livre 1 du Capital. Et ça, c'est la première pierre de cette transformation pour le marxisme politique de Robert Brenner. Et cette transformation, eh bien, elle est issue d'une violence féodale. Et le mot est important, violence féodale, c'est-à-dire une violence non pas économique, mais extra-économique. Ça passera par des éléments comme les enclosures, que vous connaissez bien, qui séparent à jamais, il faut jamais dire jamais, qui séparent les producteurs directs de la terre de leurs moyens de subsistance, et qui vont donner naissance ensuite au prolétariat rural, puis industriel, condition nécessaire à la création d'un marché du travail qui est lui-même nécessaire à l'exploitation de ce travail et donc à la valorisation du capital. Et donc, vous l'aurez compris, ce deuxième modèle qui met en avant la violence, et la violence c'est quoi ? Pour Brenner, c'est l'histoire de la lutte des classes. Elle met en avant des éléments de lutte politique féodale entre seigneurs et producteurs directs de la terre, qu'on pourrait appeler aussi paysans. Seigneurs et paysans luttent, et c'est de cette lutte que va apparaître le capitalisme. Ce n'est pas du commerce au long cours, même si, évidemment, le commerce au long cours va ensuite permettre de développer ce capitalisme naissant. On y reviendra. J'en arrive seulement à mon deuxième point, Dobb et Sweezy. Maurice Dobb est un, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, mais c'est un économiste marxiste en poste à Cambridge, qui était un élève de Keynes, qui est très proche de Piero Sraffa, avec qui il va éditer les œuvres complètes de David Ricardo. C'est un spécialiste plutôt des économies de l'Europe de l'Est, de la planification, et c'est un critique de l'économie dominante, marginaliste. C'est aussi un membre du Parti communiste de Grande-Bretagne jusqu'en 1976, jusqu'à sa mort, ou jusqu'à la publication de l'article de Robert Brenner. Maurice Dobb est un économiste, mais en 1946, il va publier son seul livre d'historien. Un livre qui, bon, va être mal reçu chez les économistes, puisque il y est historien, et un livre qui va être reçu difficilement chez les historiens, car il y est trop économiste. Et ça, c'est un trait que l'on va retrouver dans la réception de Robert Brenner, cette idée que les économistes s'expriment parfois dans des langages absolument... parfois trop compliqués, ou alors en faisant des pirouettes logiques qui montrent bien qu'ils ne sont pas allés dans les archives voir quelles étaient les relations effectives entre les paysans et les seigneurs, pour autant que celles-ci laissent une trace dans les archives. Dobb, dans ce livre qui s'intitule « Studies in the Development of Capitalism », 46, qui a été traduit en 69 chez Maspero en français, « Études sur le développement du capitalisme », réagit à des débats qui ont eu lieu entre historiens du Parti communiste de Grande-Bretagne dans les années 40. Il y a des gens comme Christopher Hill ou Eric Hobsbawm qui participent à ces débats. En fait, ils réagissent à un livre de Christopher Hill de 1940 pour fêter les 300 ans de la Révolution anglaise de 1640. Christopher Hill, je suis obligé de vous le révéler, a fait un séjour d'études en Union soviétique en 35-37, où il va rencontrer l'historien soviétique Kosminski, historien médiéviste. Et donc on a des transferts d'idées entre l'Union soviétique, le livre de Hill, et tout d'un coup, Maurice Dobb qui réagit face à ce livre. Alors, quel est le but de ce livre en deux mots ? 1. Tenter de définir ce qu'est le capitalisme. Et 2. Essayer de retracer l'histoire économique de l'Angleterre de ce point de vue-là. Dobb esquisse, c'est assez intéressant, le premier chapitre du livre. Les autres sont un peu plus ardus, se lisent moins facilement l'été sur votre hamac. Le premier chapitre essaye de donner trois familles de définition du capitalisme, deux contre lesquelles il va s'opposer et une troisième qu'il va adopter. Il s'oppose aux définitions du capitalisme en termes de changement de mentalité, comme Werner Zombart ou Max Weber ont pu esquisser. Il va s'opposer aussi aux travaux assez en vogue alors de Henri Pirenne, selon lequel c'est essentiellement l'extension du marché à une dimension internationale qui fait apparaître le capitalisme. Et il va en fait lui retenir cette idée que c'est chez Marx qu'on trouve la meilleure définition du capitalisme. Une petite citation très courte de Maurice Dobb peut vous donner sa position sur la question. Dobb parle. L'existence d'hommes maniant des capitaux importants, quelle que soit leur capacité de thésaurisation, ne suffit pas. Leur capital doit être employé à associer le travail et la création de plus-value dans la production. Toujours cette idée que le commerce n'explique pas l'arrivée du capitalisme et que c'est dans la production, dans l'exploitation du surplus qu'apparaît cette idée-là. Il est donc même si cette dénomination n'existait pas encore. Il est contre le modèle 1, le modèle smithien, et il est favorable au modèle 2, le modèle nettement marxiste, d'après l'expression de Meixinsud. Et c'est là où un autre économiste marxiste, mais cette fois américain, Paul Sweezy, qui était un temps professeur à Harvard, un de ces rares avec Paul Baran à avoir des postes de professeur d'économie marxiste dans une période aux États-Unis où c'était pas forcément bienvenu, qui va surtout être connu comme l'éditeur avec Leo Huberman de la Monthly Review, qui existe toujours et qu'il a créé au début des années 40, et à qui on doit des ouvrages qui ont compté dans le marxisme occidental et américain et états-unien. Il va surtout, en 1950, répondre à Dobbs dans la revue Science and Society, où il va, et c'est assez intéressant, d'un premier, il va pointer du doigt l'absence de toute considération du commerce international dans l'histoire de Dobbs et le rôle que ce commerce international joue dans l'apparition du capitalisme. Ça, c'est un peu aussi une critique de la vision très étriquée de Dobbs de rester sur l'Angleterre pour expliquer un phénomène qui est peut-être plus large que l'Angleterre. Donc ça, ça positionne très clairement Sweezy comme un partisan du modèle 1 contre un Dobbs partisan du modèle 2. Mais surtout, il va aussi pointer du doigt des apories dans le raisonnement de Dobbs. Sweezy ne comprend pas, par exemple, pourquoi les paysans quitteraient leurs moyens de subsistance pour devenir des travailleurs libres. Il ne comprend pas certains éléments des raisonnements de Dobbs, et Dobbs, à vrai dire, ne parviendra pas à répondre à toutes ces critiques, et c'est plutôt Robert Brenner, 20 ans plus tard, qui apportera les réponses à ces questions. Ces deux articles vont susciter toute une série de réponses dans la presse scientifique marxiste de l'époque, notamment de Dobbs, de Sweezy, mais aussi et toujours du même Christopher Hill, d'Eric Hobsbawm, mais aussi, là, ça va prendre une dimension internationale, plus internationale, avec Kouachiro Takahashi, qui vont participer à des articles qui finalement vont être réunis dans un volume en 1954 en anglais, traduit toujours chez Maspero en 1977, et avec une introduction de Holton, et qui s'intitule ce livre The Transition from Feudalism to Capitalism. Et donc on a un débat qui n'est pas réglé entre partisans de Dobbs qui voit dans la production l'apparition du capitalisme, la production agricole, et Sweezy qui voit dans le développement du marché, et notamment du marché international, cette histoire-là. Donc vous voyez que mon histoire de Marx et Engels au début, c'est un peu une redite à l'inverse de ce qu'on peut dire Dobbs et Sweezy l'un contre l'autre. Il se trouve, mais on le sait moins, que les économistes soviétiques, c'est mon troisième point, dans le même moment, ou dans les années 50, sont engagés dans une entreprise de définition du féodalisme. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de préparer le premier manuel d'économie politique soviétique, approuvé par le parti, qui va sortir en 54. Et pour ça, tout le monde est mis à contribution. Il faut définir la loi économique fondamentale du féodalisme, mais aussi de l'esclavage, du capitalisme et du socialisme. Ce sera la partie la plus importante de l'ouvrage. Alors, le métier d'historien soviétique, mais pas seulement soviétique, le métier d'historien est parfois un métier à risque. Le métier d'historien soviétique l'était particulièrement sous Staline, puisqu'il y a eu plusieurs chasses aux sorcières. On s'est débarrassé à la fin des années 20 des historiens aristocrates de l'Empire impérial russe et des historiens bourgeois. Dans les années 30, on s'est débarrassé d'historiens fascistes, et dans les années 40, fin des années 40, on se débarrasse de ce qu'on appelle les historiens cosmopolites. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces chasses au cosmopolitisme. C'était notamment, mais pas seulement, une manière de débarrasser pas mal d'organes soviétiques de juifs. Donc on a l'impression d'un... Et surtout en lisant les articles dans la revue Vaprosi Histori, qui est la revue maîtresse des débats historiques de l'époque, on a l'impression qu'on a des dialogues en vase clos. On ne cite jamais un auteur occidental, sauf Marx et Engels. Mais en fait, c'est pas tout à fait... ça ne caractérise pas l'absence de rapport, et notamment via les partis communistes des pays occidentaux. Puisque il, je vous l'ai dit tout à l'heure, fait un séjour d'études à la fin des années 30, en plein procès de Moscou, il sera accueilli par Kosminski, qui sera un peu écarté par la lutte aux historiens cosmopolites. Dobb, le livre de 46 dont je vous ai parlé, on en publie un compte-rendu, Zvavitch va en publier un compte-rendu en 46 dans une revue soviétique, et Bissmertny en 55 va même publier un compte-rendu des débats entre Dobb et Suisy, le fameux volume de 54 publié en anglais dont il a été question récemment. Alors, juste pour vous dire en deux mots en quoi constituent ces débats soviétiques, eh bien, premièrement, on cherche à caractériser la périodisation du féodalisme en Russie. Et là, il y avait plein de débats, alors entre archéologues, sur la question du départ. Étant donné que Lénine a dit que c'était le 9e siècle, on est resté sur son interprétation archéologique. Et puis pour la fin, c'est là où il y avait les débats les plus saillants, puisque certains voient au 17e siècle, au 18e siècle, ou au début du 19e siècle, dans des épisodes où le marché prend une part soudainement importante, où là où les relations monétaires prennent une place importante, ou là où le salariat apparaît dans certains éléments de la société de l'Empire russe, eh bien, certains dataient de là la fin du féodalisme. Lénine a décidé, puisqu'il avait un avis sur la question, que c'était 1861, la fin du servage. Et donc, c'est cette date qui va être retenue. Et donc, toute une partie des débats qui ont lieu dans la revue Vaprosi Histori entre 1951 et 1955 sont une remise au pas des différentes positions, une critique par d'autres des différentes positions qui dataient autrement l'apparition et la fin du féodalisme. La rédactrice en chef de la revue, puisque ça c'est quelque chose de différent en Occident, dans les années 50 il y avait des rédactrices en chef et pas seulement des rédacteurs en chef en Union soviétique, ont fait un article, et c'est assez rare que les rédacteurs en chef écrivent des articles. Quand ils écrivent des articles, c'est souvent pour donner la bonne parole. Dans cette bonne parole figure l'idée que étudier les forces productives ne suffit pas, et qu'il faut aussi étudier l'histoire de la lutte des classes. Et donc c'est un avertissement pour les historiens qui ne prendraient en compte que le développement des forces productives, qu'ils sont dans la mauvaise voie. Deuxièmement, elle fait une deuxième mise au point. Des historiens soviétiques confondraient production marchande et production capitaliste. Et là, de nouveau, elle dit que ça ne sera plus possible, ça ne sera plus publié dans la revue dans la suite. Et donc, on arrive, grâce à un économiste qui vient donner une définition du féodalisme comme un système où la production et l'appropriation extra-économique d'un produit excédentaire a lieu conformément aux normes de consommation des classes et aux exigences de l'économie naturelle, de sorte à reproduire les relations féodales. définition qui va s'imposer, s'inscrire dans le manuel d'économie politique soviétique. Et en 1955, la revue publie une conclusion des débats, cette fois sans auteur, en disant « Maintenant, la question est réglée. Il nous faut désormais nous intéresser aux études de cas extra-anglaises, puisque presque tout était fait sur l'Angleterre. Maintenant, la Russie, on est bon. Il faut nous intéresser à l'Asie, à l'Afrique, à d'autres pays européens. Mais il ne faut pas revenir. Et effectivement, il n'y aura plus de débat sur en tout cas, les deux décennies qui vont suivre. Et bon, en vous disant ça, les soviétiques donnent en fait à la dimension politique du marxisme une importance singulière, importante, ce qu'on va retrouver chez Brenner. Les soviétiques, comme Dob, sont dans l'équipe du modèle 1, là où Suzy est dans le modèle 2. Un mot maintenant, c'est ma quatrième partie, sur le contexte anglais de la contribution de Brenner. La revue Past and Present, dans laquelle Brenner publie, est une revue récente fondée par des jeunes historiens marxistes proches du Parti communiste britannique. Mais je dis proche seulement parce que, à partir de 1956, il se distance de la position officielle de Moscou. Et donc, on a affaire à cette nouvelle gauche anglaise dans laquelle Brenner va venir. Après sa thèse californienne, venir faire une sorte de post-doc avant l'heure, et dans, là où il va publier surtout cet article qui va avoir cette résonance. L'objectif de cette revue est clairement affiché, et ça va même devenir le cheval de bataille d'Ellen McSinswood par la suite, c'est l'idée d'écrire une histoire sociale pour échapper à l'historiographie libérale qui avait alors cours dans la société académique anglaise. Brenner va aussi publier dans une autre revue, la New Left Review, dans laquelle il entrera dans le comité de rédaction fin des années 70, et dans laquelle il retrouvera d'autres amis comme Thompson ou Hobsbawm. On va le voir tout de suite. Thompson est un de ces auteurs qui, avec son... History from Below, son histoire par le bas, donne une importance singulière aux rationalités individuelles des acteurs, qui va être quelque chose d'important chez Brenner. Puisque, petite parenthèse, je suis obligé de vous dire un petit mot sur la méthode de Brenner et sa méthode d'écriture. Il écrit un peu comme un micro-économiste. C'est ce qui rend la traduction un peu compliquée. C'est-à-dire que son discours est basé sur les comportements individuels d'agents féodaux, par exemple, qui ont une idée de rationalité. Mais là où il va s'opposer à plein de discours, c'est qu'il va opposer une rationalité féodale à une rationalité capitaliste. Et ça, ce trait de langage et cette méthode de raisonnement est probablement dû, c'est notre hypothèse à Nicolas et à moi-même, au flirt que Brenner va avoir au début des années 80, puisque c'est quelque chose qui s'accroît au fil du temps, avec ce qu'on a appelé le groupe de septembre, qui s'appelle autrement le Marxism Without Bullshit, que je ne vais pas vous traduire, et qui s'appelle aussi aujourd'hui plutôt le marxisme analytique ou le marxisme du choix rationnel. Ce sont ces gens comme Gerald Cohen, John Römer ou John Elster qui vont tenter d'intégrer Marx dans le monde académique américain en traduisant Marx dans le langage de la science contemporaine, c'est-à-dire dans la théorie du choix rationnel, du marginalisme, la théorie économique standard dominante. Une fois qu'on a passé Marx à cette moulinette-là, il ne reste à vrai dire pas grand-chose. Et Brenner, peut-être fort heureusement, s'est assez vite éloigné de ce groupe, mais il a été assez séduit par leur mode de raisonnement. On raisonne en termes de théorie des jeux, en termes de rationalité, etc. Et c'est ce qui va pour beaucoup expliquer que Brenner est difficile à réceptionner chez les historiens. Parce que, soit parce qu'on aime raisonner autrement, la longue durée en France, les annales, ou alors des structures très macro, le structuralisme d'Althusser, dans lequel l'individu est broyé sous des structures et des superstructures où il n'y a plus de place pour ce qu'une personne souhaite faire. Et donc, c'est ce qui va expliquer peut-être parfois nos difficultés de traduction avec des phrases de marxiste analytique. Ça veut dire quand même des phrases de philosophe analytique parfois, avec plein de conjonctions, des doubles négations, des choses comme ça. C'est ce qui explique le temps qu'on a pris pour traduire ces 80 pages. C'est quelque chose qu'il faut garder en tête dans la suite de mon exposé, puisque j'arrive maintenant au chapitre 5, la critique du modèle smithien et malthusien. C'est quelque chose qu'on se devait de vous rappeler, c'est que Brenner n'arrive pas dans un environnement où il y a eu Dobe et Sweezy, et puis c'est tout, et puis tout d'un coup, 20 ans après, on relance la machine, c'est pas ça. C'est que il y a eu pas mal de publications dans la décennie qui précède, et notamment d'historiens qu'il qualifie partisans d'une approche démographique, qui explique l'histoire avec un modèle que Brenner qualifie parfois de malthusien, parfois de malthusiano-ricardien, dans lequel des gens comme Michael Postan ou Emmanuel Leroy-Ladurie tentent d'expliquer par les mouvements démographiques les différentes évolutions du féodalisme notamment et de la montée de sociétés capitalistes. Et là où Brenner souhaite intervenir, c'est pour dire attention, il va le montrer notamment dans le texte qu'on a traduit, que ces effets démographiques avaient des effets différents selon les endroits et que parfois ça procédait effectivement à la dissolution du féodalisme ou du servage, mais parfois ça le renforçait, comme dans le cas qui est pas mal discuté dans le Brenner Debate du nouveau servage ou du deuxième servage qui serait intervenu à l'est de l'Elbe en Europe, c'est-à-dire en Europe de l'Est, suite à un effort de colonisation des terres vers l'Est qui aurait été différent d'un endroit où les terres auraient déjà été appropriées pour la plupart plus à l'Ouest. Mais 76, c'est aussi le renouveau des approches de la commercialisation ou des approches inspirées par Sweezy. On a André Gunder Frank, on a Emmanuel Wallerstein, on a Douglas North qui réfléchissent en termes de système marchand international, ce fameux système monde ou théorie de la dépendance, dans lequel ce système marchand international vient expliquer, bien avant les conditions locales de production, l'évolution du système. Or, et Brenner l'expliquera, mais c'est juste un petit aparté, un système monde peut aussi exister dans un cadre non capitaliste pour Brenner. Ça, c'est quelque chose de distinct et qu'il faut distinguer. Un peu d'énergie avant le chapitre 6. Les concepts clés de Robert Brenner. Robert Brenner donc donne, dans le texte de 76, mais de façon encore plus éclatante dans ce texte de 2007, la primauté aux relations sociales, à la lutte des classes, comme vous l'avez maintenant compris. Et il va adopter une approche historiographique comparative en utilisant différents pays comme étude de cas. L'Angleterre, la Hollande du Nord, les Pays-Bas du Nord, la France, essentiellement. C'est là-dessus où il était notamment pas content dans son article de 76. Puis il préfère ce qui est venu par la suite. Et donc, premier concept important, celui de relation sociale de propriété. Je vais vous le lire dans le texte de Brenner lui-même, dans notre traduction. Je définirai donc les relations sociales de propriété comme les relations entre producteurs directs, entre exploiteurs et entre exploiteurs et producteurs directs. Des relations qui, prises ensemble, rendent possible et définissent l'accès régulier des individus et des familles aux moyens de production, terres, travail, outils, et ou aux produits sociaux. L'idée est que de telles relations propres à chaque société définissent les contraintes fondamentales encadrant et limitant les comportements économiques individuels. Elles constituent des contraintes dans la mesure où elles déterminent non seulement les ressources dont disposent les individus, mais également la manière dont ils y ont accès et plus généralement leurs revenus. Les relations sociales de propriété sont maintenues et reproduites collectivement en dehors du contrôle de chaque individu par des communautés politiques constituées précisément à cette fin. Et c'est parce que ces communautés politiques constituent et maintiennent ces relations sociales de propriété collectivement et par la force, en mettant en œuvre des fonctions politiques normalement associées à l'État, comme la défense, la police et la justice, que les acteurs économiques individuels ne peuvent généralement les modifier et doivent les considérer comme une réalité acquise à l'intérieur du cadre duquel ils effectueront leur choix. Là, on retrouve la théorie du choix social. Et donc, dans le cadre féodal, eh bien, on a des relations sociales de propriété féodales, dans lesquelles les paysans ont la possession et non la propriété de leurs moyens de subsistance. On leur laisse de la terre qu'ils peuvent travailler pour eux-mêmes, là où les seigneurs accaparent une partie de la production agricole par le biais d'une coercition extra-économique, au besoin avec l'usage de la force. Sous des formes diverses, rente en nature, rente en monnaie, ou travail sur la réserve de terre seigneuriale, sous plusieurs formes. Mais vous voyez qu'il y a une tentative de définition très générale, là où le Brenner Debate va parfois partir dans des détails très précis sur en quelle année la rente en nature passe en monnaie, etc., etc. Ce qui va intéresser Brenner, c'est essentiellement de comparer deux cas. C'est le cas de l'Angleterre et le cas de la France, où dans un cas, on va rester féodal, c'est la France, et dans l'autre cas, on va basculer vers le capitalisme. Et tout ce que les autres expliquent avec le commerce, la démographie, etc., pour Brenner, c'est juste l'étape suivante de la diffusion du capitalisme anglais vers la France, par exemple. La diffusion, mais pas le processus d'apparition. Il n'y a pas de diffusion tant que ça n'est pas apparu. Et il va réfléchir en des termes que de ce type-là. Les seigneurs n'avaient pas intérêt, ni pas le moyen, de profiter du marché et de ses gains potentiels. Par exemple, le fait de se dire « Mais pourquoi les seigneurs ne renverraient pas les paysans de leurs terres ?» Ben, c'est pas crédible, parce que qui viendrait travailler sur ces terres ? Le seigneur lui-même n'a pas le temps. En l'absence d'un marché du travail, on trouve personne pour occuper ces terres. Et donc, il y a une question très importante que ces relations sociales de propriété expliquent, dans une certaine mesure, un immobilisme qu'on a pu voir sous le féodalisme, mais dans une certaine mesure seulement. Les seigneurs, d'ailleurs, on pourrait se demander pourquoi n'accumulent-ils pas de capital pour, comme les capitalistes, pour produire plus, etc. Ben, pourquoi ? Pour des raisons simples, c'est que ils sont forcés par le système féodal d'acheter des biens plutôt de luxe et des biens militaires. Pourquoi ? Les biens militaires sont nécessaires pour exercer la force d'extraction extra-économique sur les paysans. Mais les biens militaires sont surtout nécessaires pour ne pas se faire voler ses terres par le seigneur voisin. Et donc, la concurrence entre seigneurs féodaux fait qu'on est obligé de procéder à ce que Marx appellerait des dépenses improductives plutôt qu'à des dépenses productives pour survivre en tant que seigneurs féodaux. Et donc, pourquoi des biens de luxe ? Eh bien, ce n'est que si on a des biens de luxe qu'on arrive à s'attirer une cour dans laquelle on pourra recruter des soldats qui vont pouvoir travailler pour nous. Et si il y a plus de luxe dans la cour d'à côté, les soldats vont se déplacer dans la cour d'à côté. Donc cette idée d'accumulation, non pas de capital productif, mais d'accumulation de capital politico-militaire, c'est quelque chose qui explique l'absence de développement du capitalisme. De même, les paysans, par exemple, on pourrait se demander pourquoi est-ce que vous produisez ces choses-là, alors que si vous vous spécialisiez dans la production d'un élément, vous pourriez être plus productif et donc ainsi gagner plus d'argent. Eh bien, simplement parce que gagner plus d'argent, ce n'est pas très raisonnable si c'est prendre un risque bien accru de mourir de faim. Je m'explique. Produire des choses dont on n'a pas besoin pour les envoyer sur le marché fait qu'on devient dépendant d'un marché qui, par ailleurs, n'était pas encore très bien développé et dans lequel les prix étaient, pour cette raison aussi, beaucoup plus erratiques. Et donc, on pouvait produire des choses et ne pas avoir suffisamment à manger. Alors que la règle que va énoncer Brenner pour la période féodale, c'est « safety first », la sécurité avant tout. Produisons d'abord tout ce qui est nécessaire à notre propre production, et si on arrive à produire un surplus, on ira l'apporter au marché. Mais d'abord, faisons ça, et on n'a aucune raison de changer cette règle, parce que il vaut mieux être vivant et moins riche que... ça, c'est le raisonnement logique, philosophique, analytique. Tout ça pour vous dire que de ces relations sociales de propriété, social property relations, expression qui n'apparaît pas dans l'article de 76, mais seulement dans les suivants, vont naître des règles de reproduction. Et là, je vais vous citer de nouveau la définition des règles de reproduction. C'est plus court. Étant donné l'ensemble spécifique et historiquement situé de relations sociales de propriété d'une société, on peut s'attendre de manière systématique à ce que les individus et les familles adoptent un ensemble correspondant et particulier de stratégies économiques, ce que j'appellerais des règles de reproduction. Car, à la lumière des possibilités et des limites fixées par ces relations sociales de propriété, ces stratégies ou règles sont considérées comme les plus pertinentes. On peut donc dire que les relations sociales de propriété déterminent les règles de reproduction. Donc on a les relations sociales de propriété tout en haut, qui déterminent les règles de reproduction. Et ces règles de reproduction, elles vont déterminer des modèles de développement économique bien particuliers. Donc, juste pour qu'on soit sûr, il y a donc des... Désolé pour me répéter. Des relations sociales de propriété féodales qui donnent lieu à des règles de reproduction féodales, qui donnent lieu à des modèles de développement économique féodaux. Et cette reproduction peut donner lieu à des crises, notamment à cause d'événements extérieurs comme le commerce, les mouvements de population, qu'ils soient naturels ou liés à des événements comme la peste ou d'autres, ou des mauvaises récoltes, mais qui cherchent toujours à se reproduire comme règle de reproduction pour permettre le maintien des relations sociales de propriété. Personne n'a intérêt à dévier de cette règle-là. Et d'un autre côté, on a des relations sociales de production capitalistes qui donnent lieu à et qui déterminent des règles de reproduction capitaliste qui donneront lieu à des modèles de développement capitaliste. Donc on a les deux explications, on a tout ça. Tout ce qui manque, et c'est là seulement que le travail peut commencer, c'est comment comprendre la transition qui reste entière. Et le seul moyen logique, et après il va essayer de l'appliquer de façon historique dans l'article qui est là-dedans, de concevoir cette transition, c'est comme conséquence inintentionnelle d'actions d'agents féodaux qui tentent de se reproduire en suivant des règles de reproduction féodale pour maintenir des relations sociales de propriété féodale. Conséquence inintentionnelle dans un système politique bien particulier. Est-ce que vous voulez que je vous le dise dans les mots de Brenner, peut-être ? Je n'ai pas trop bientôt terminé. Non. Et donc, pour des raisons historiques très singulières, qui fait que finalement, en Angleterre, on a une décentralisation des pouvoirs féodaux. Là où en France, on a une très forte centralisation des pouvoirs féodaux. Il y a un moment en Angleterre où, suite à des mouvements de population, on se retrouve avec des paysans qui sont en fait courtisés par les seigneurs au point de pouvoir négocier des règles relativement importantes, et notamment la règle que ne vont pas obtenir les paysans français, qui est d'obtenir leurs terres en propriété avec une copie du registre manorial, le copyhold, qui fait qu'en Angleterre, on a toujours ces trucs où on peut acheter des maisons, mais on n'est pas propriétaire ou propriétaire, ça existe toujours cette histoire. Mais ce copyhold, on pouvait le présenter devant un tribunal en étant paysan face à un noble et obtenir gain de cause. Et donc ceci va transformer les rapports de pouvoir entre paysans et seigneurs, qui font que finalement les seigneurs, à une époque où la situation deviendra de nouveau difficile pour eux, parce qu'il n'y a plus suffisamment de production, tout ça de nouveau à cause de conditions endogènes, eh bien, ne vont pas pouvoir chasser immédiatement les paysans de leurs terres puisqu'elles leur appartiennent, mais donc ils vont essayer de jouer sur les marges de manœuvre, augmenter le loyer. Et là, on arrivera assez vite sur un système de marché des baux loyers, là où il n'en existait pas avant. Mais pas seulement ça, aussi arguer que finalement, si certes les paysans ont droit à leurs terres, ils n'ont plus droit aux terres communales. Et c'est là où le mouvement des enclosures s'enclenche. Et donc on arrive petit à petit à une explication historique où commence à s'instaurer une concurrence pour les baux et donc par la suite une concurrence pour les métayers et donc par la suite l'apparition d'un marché du travail agricole. Et donc le capitalisme est né en Angleterre, alors qu'il y a plein d'autres endroits, en Hollande du Nord ou en Italie, où il y avait plein de grands commerces et plein de choses qui n'ont jamais donné lieu à l'apparition du capitalisme. Ça, c'était mon point 6. Et puis, vu qu'on n'a plus le temps, j'ai plus qu'une minute pour conclure sur le point 7, c'est ça ?
On peut avoir un peu plus.
Un peu plus, 5 à 7 minutes. Pour vous dire que le Brenner Debate, point 7, est une sorte de réception sous forme un peu de malentendu. Pour vous donner juste un exemple que je trouve assez parlant. Brenner dit « Les règles de reproduction sociale » engendrées par les relations sociales de propriété féodale, etc., etc. Il y a une prof allemande qui lui dit « Oui, mais je trouve que vous exagérez les différences qu'il y avait entre la situation des paysans en Allemagne à l'ouest de l'Elbe et à l'est de l'Elbe, puisque dans la littérature récente, d'ailleurs, que vous ne citez pas, eh bien, on parle de ce fameux absence de Weistümer, un document de déclaration de droit coutumier qui existe dans les villages à l'ouest de l'Elbe, mais pas à l'est. Et donc, Brenner en conclut que s'il n'y a pas de document, il n'y a pas de droit coutumier, et donc les paysans sont moins bien à l'est qu'à l'ouest. Or, ce n'est pas vrai. L'absence de document est complétée par d'autres mécanismes qui donnent à peu près les mêmes droits aux uns qu'aux autres. Et donc, on lui reproche son absence. En fait, on lui reproche de ne pas être un vrai historien. On lui dit, vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous faites des généralités, vous faites des jeux à partir de concepts, mais c'est pas extrêmement sérieux. D'autres historiens comme Cooper, un historien anglais, va dire que Brenner exagère la spécificité anglaise par rapport à la spécificité française. Postan et Leroy Ladurie, qu'il ciblait, vont évidemment dire que il caricature la lutte des classes et ne prend pas assez sérieusement la question démographique et ses effets. Et puis, un autre historien, Guy Bois, dans un livre important de 76 aussi, qui s'appelle « La crise du féodalisme ». Mais si on lit le sous-titre, on comprend qu'en fait, on parle de la crise du féodalisme en Normandie orientale, je ne sais plus à quel siècle, au XIVe siècle. Il reconnaît que Brenner a raison sur de nombreux points, même si il n'est pas du tout d'accord ni avec sa méthode, ni avec son raisonnement, mais sur les conclusions. Il dit il n'est pas si mauvais. Mais Brenner gomme les spécificités entre la France et l'Angleterre. Il en fait des cas particuliers juste pour les opposer, pour pouvoir raisonner de façon abstraite sur des événements qui ne sont pas vraiment historiques. Et Brenner répondra en disant que c'est Guy Bois qui gomme les spécificités entre l'Angleterre et la France, en admettant seulement des différences de degré de développement économique, en disant un pays qui est plus avancé, l'autre qui est moins avancé. Mais plus avancé et moins avancé par rapport à quoi, demandera Brenner. Par rapport à l'idée que vous vous faites déjà du capitalisme et de son modèle de croissance qui n'était pas encore là. Et donc vous vous faites avoir de nouveau dans cette idée que la croissance qu'on cherche à expliquer par l'apparition du capitalisme, eh bien, vous la postulez comme étant déjà là, avec des différences. Et donc, pour Brenner, ce qui est important, c'est d'étudier les différences de relations sociales de propriété et pas les différences de développement économique qui sont qu'en bout de chaîne du développement et du raisonnement. Et bon, c'est pourquoi je parle de Guy Bois, parce que c'est lui qui, dans sa critique de Brenner, va dire on n'a pas besoin du marxisme pour faire de l'histoire, même si des fois la méthode matérialiste historique est intéressante. Mais il va dire finalement, oui, en s'attaquant précisément aux luttes de classe entre les paysans et les seigneurs, il va dire que le marxisme de Brenner est vraiment un marxisme politique. Et ce qui était un nom d'oiseau a été revendiqué par la suite et est devenu le nom du groupe que Brenner va former avec ses acolytes, dont dans la troisième partie de notre introduction, on en parle brièvement, Hélène Maxinsoud, Andreas Malm, Xavier Lafrance, Jonathan Martineau et d'autres qui forment un courant, je dirais anglo-saxon, québécois, intéressant, vivant surtout, à part pour Hélène Maxinsoud qui est décédée, mais un courant vivant là où en France et dans le reste de la francophonie, à part le Québec, où les excellentes éditions Luxe ont publié pas mal de textes en français en traduction de Hélène Maxinsoud, eh bien on a je dirais qu'on ne s'est pas rencontrés. Et on évoque juste dans la conclusion l'idée qu'il y a eu un colloque en 1983 à l'EHESS dans lequel ont été invités pas mal de marxistes français et italiens, et ont aussi été invités John Elster, John Romer et Robert Brenner, deux marxistes analytiques et un marxiste politique. Robert Brenner avait présenté un papier sur le premier modèle de développement de Marx et Engels. Les actes de ce colloque sont publiés, mais il n'y a aucune réaction à quoi que ce soit entre ces trois mondes. Il y a des liens entre le marxisme italien et français, mais le monde anglo-saxon ne parle pas définitivement. Et donc, c'est un peu pour tenter d'inverser la tendance qu'avec Nicolas Brisset, nous avons souhaité traduire et rappeler, pas seulement aux historiens qui en ont un vague souvenir, ah oui, le Brenner Debate, mais aux économistes aussi français qui ne savent pas qui est Brenner, son existence. Voilà. Merci pour votre attention.